Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Débat IMO, une émission construite en partenariat avec nos amis de WeInvest, WeInvest, comme on voudra, c'est le réseau qui va bien avec notre ami qui est sur le plateau, avec qui nous a beaucoup construit cette émission, et en l'occurrence, c'est normal puisqu'il est le directeur général de WeInvest. Bonjour Xavier Belbeau, comment ça va Xavier ?
Je vais très bien, il fait beau depuis quelques jours, c'est hyper agréable, donc tout va bien.
Merci d'être avec nous, Xavier, pour ce nouveau numéro de Débat IMO. On va en parler tout à l'heure, puisque vous avez choisi un sujet que j'adore et qui est très important pour toutes et celles qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Un monsieur qui fait de la politique syndicale, qui défend l'ensemble des métiers de l'immobilier, et pour cause, il est président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, qui est la plus grosse région du réseau de l'UNIS, qui est quand même l'un des syndicats majeurs de l'immobilier en France. Il est en outre le cofondateur de Safar Immobilier, le groupe Safar, qui est l'un des principaux administrateurs de biens syndic de copropriété sur notre bonne vieille ville de Paris. Bonsoir, bonjour Olivier Sapin.
Oui, bonjour plutôt, bonjour voilà. Sylvain, bonjour à tous. Merci de me recevoir.
Et merci, alors c'est très important que vous soyez là mon cher Olivier, puisque vous êtes un peu la voix de la politique de la profession, et donc vous prenez toujours de la hauteur pour aider les professions, le professionnel également à se transformer, et tout bouleversement étant propice au changement, c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions dans un univers où on est un peu en crise en ce moment. On peut lire les choses comme
ça. La crise est réelle, mais l'évolution aussi est là. Et il faut bien parler d'évolution plutôt que de révolution. Je pense que c'est déjà un point important.
Merci Olivier Sapin. Voilà, si vous voulez de la rénovation énergétique, il y a un réflexe. Vous allez www.casam.fr.
Casam-pro.com.
Alors,
exactement.
Casam-pro.com. Voilà, donc, vous tapez Casam, C-A-S-A-M. Mais écoutez, c'est la caverne d'Ali Baba. On trouve tout. Voilà, on trouve tout. Vous voulez une Mercedes, ils ont. Vous voulez une BMW, ils ont. Vous voulez une pompe à chaleur, ils ont aussi. Voilà.
C'est ça. Et on forme surtout les. Voilà. Bonjour à tous. On forme surtout les professionnels de l'immobilier en particulier, et on les outille avec du logiciel.
Voilà, 3615 Casam. Voilà. Vous l'avez
3615,
entendu.
Vous l'avez ça existe encore.
Je suis pas sûr. Mais pour Sylvain, peut-être.
Oui, merci. J'en ai pris une, là. C'est Julien Bénard. Donc, ça va, Julien ?
Très bien, très bien.
Merci d'être avec nous. Vous êtes habitué maintenant sur les plateaux ?
Ah, c'est la deuxième fois.
Voilà, ça nous fait plaisir de vous recevoir. La rénovation énergétique, le chantier du siècle. On peut le dire. D'ailleurs, on va se voir bientôt, puisqu'on fait le Tour de France ensemble avec nos amis de Sofinco. Notamment, on fait la Foire de Paris. Vous allez voir, ça va être très sympa. Voilà, il est conseiller maintenant, coach, business angel, accompagnateur, il a dirigé le marketing, la communication dans des grands groupes immobiliers, il connaît bien la technologie, il est avec nous, c'est Arnaud Vialanex.
Comment bonjour, ça va Arnaud ? Très bien, merci pour l'invitation.
Voilà. AVX Consulting.
Oui, j'étais très créatif, effectivement.
Voilà. Vous avez créé votre propre entreprise.
Tout à fait.
Et vous coachez, vous managez des entreprises, vous aidez les entreprises, vous faites émerger les talents.
Tout ça, effectivement, oui. Eric Brio, bien sûr, oui, donc des grands groupes, des petites entreprises, des proptech, dans l'univers du logement, de la construction, immobilier.
Vous avez à peu près tout fait dans le métier.
Pas mal.
Non mais de la plus petite entreprise à la création d'entreprise jusqu'à un des grands groupes cotés, quoi.
Oui, bah j'ai pas mal bourlingué, effectivement, et donc j'essaie de tout ce que j'ai appris dans ces grands groupes, dans des belles maisons comme Geocia, Nexity ou Foncia, donc celle de le propager dans le bon sens du terme, effectivement, dans des entreprises qui sont soit dans l'univers de l'immobilier, qui veulent s'y développer, soit qui sont déjà à l'immobilier, petit ou grand.
En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler, justement, et on va parler d'éthique dans l'immobilier. Jamais sans elle. Jamais sans elle. Voilà. Dans toutes les émissions, il faut qu'on ait des femmes, et les femmes qui émergent, qui ont du talent. Il était temps que l'immobilier s'en rende compte. Justement, eh ben, écoutez, on a l'une des meilleures sur notre plateau. C'est Céline Fernandez, bonjour.
Merci, quel honneur. Et quelle responsabilité, surtout.
Ça nous fait plaisir. Vous êtes consultante spécialisée et coach en entreprise.
Exactement. Et formatrice aussi, également, depuis maintenant plus de 3 ans. Et je connais très bien le monde de l'immobilier parce que pendant 15 ans, j'étais responsable événementielle pour un grand réseau qu'on a connu avec Xavier.
On peut le citer.
Hein, on peut le citer.
C'est le réseau Orpi, et c'est l'un des plus grands réseaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque les réseaux coopératifs les valeurs de la coopération, de la coopérative, on voit très bien le relief que ça peut prendre aujourd'hui lorsqu'on est, par exemple, en difficulté. C'est vrai que le modèle coopératif, qui est inopérable par nature, puisqu'il n'est pas structuré en capitaux, est un modèle extrêmement intéressant dans le paysage, finalement, des groupes immobiliers, bien évidemment. Et je suis ravi que vous soyez avec nous.
Merci
vous avez créé votre propre entreprise, vous êtes une entrepreneuse.
Oui.
Et donc, c'était important d'entendre aussi la voix féminine. Parce que, comme vous le savez, dans l'immobilier, on a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre la parité. Et croyez-moi, ce n'est pas piquer des verres. Ce n'est pas simple de trouver. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans le métier de l'immobilier, dans le secteur tertiaire, l'immobilier est un des secteurs les plus discriminants à l'égard des femmes. Vous savez, au niveau des gouvernances. Vous entrez dans une agence, vous avez toujours une assistante, une négociatrice. Mais dès que vous allez dans les niveaux de gouvernance, de management... Voilà, du coup, ça s'étiole un peu, et donc c'est important de le rappeler. Alors, je disais Jamais sans elle, parce qu'il y a un collectif qui s'appelle Jamais sans elle, où on s'interdit de faire des réunions ou des émissions s'il n'y a pas une représentation féminine. C'est un engagement que beaucoup de médias prennent, et nous, on essaye de s'y tenir. En tout cas, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Xavier Belvaux.
Exactement.
C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on le sent dans votre recrutement, Xavier, et dans toutes vos actions. Voilà. Voici pour, justement, le débat de notre émission. Mais on va commencer, si vous voulez bien, comme d'habitude, par un édito, tout de suite après ça. L'édito, c'est Xavier Belvaux qui s'y colle pour chaque débat IMO. Xavier, c'est à vous.
Alors d'habitude, je prépare un petit quelque chose. Et là, effectivement, j'étais assez fâché. Donc je vais un petit peu parler, non pas par colère, mais on n'est pas loin. Depuis quelque temps, j'entends souvent parler de cette guerre ouverte entre les mandataires et l'immobilier et les agents immobiliers. On a tendance à dire qu'elle se calme, qu'elle évolue. Mais les faits, c'est que si nos dirigeants d'agences immobilières, il y a plus de 30 ans, avaient drivé leurs collaborateurs avec de meilleurs leviers, on aurait effectivement moins de mandataires immobiliers qui seraient des conseillers immobiliers. Parce que si on fonctionne... de manière cohérente, il y a 10 ans en arrière, on avait surtout des personnes qui étaient en reconversion immobilière qui rentraient dans les réseaux de mandataires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, la première cible que tout le monde target, c'est le conseiller immobilier en agence. Et le conseiller immobilier en agence, au-delà de la rémunération, parce que la rémunération, surtout de nos jours, ça ne fait pas tout. C'est pas ce que recherche un collaborateur aujourd'hui qui a 20-30 ans, et on en parlera. Il a besoin de retrouver une équipe, de se sentir moins seul, de se sentir épaulé, de se sentir compris. Et je trouve qu'on a raté le coche avec beaucoup de collaborateurs en agence, qu'on n'a pas su incentiver, qu'on n'a pas su motiver. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet quand on parle d'éthique. Et ben, je trouve que l'éthique commence déjà par balayer devant sa porte, et ça commence déjà par les collaborateurs. Parce que les collaborateurs sont difficiles à trouver. On entend souvent que personne ne veut bosser. En réalité, je suis au contact. Il y a très peu de temps, j'étais à l'ESSEC. J'étais dans une autre école, je m'aperçois qu'il y a plein de jeunes qui bossent, qui ont envie et qui ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il faudrait déjà qu'on arrête. Le deuxième sujet, on sait très bien que l'actualité immobilière autour du groupe Stéphane Plaza est compliquée. Pour autant, je trouve qu'on va très vite en raccourci dans l'immobilier, et on parlera des soft skills. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut très bien...
C'est quoi un soft skills ?
Alors, c'est tout simplement aujourd'hui comment on va... recruter un collaborateur, non pas par ses compétences techniques, mais par ses compétences naturelles, morales et sénées. On parlera très bien tout à l'heure, parce que justement, j'ai fait appel à elle pour pouvoir progresser, évoluer au sein de notre réseau. Mais j'étais vraiment alarmé, c'est-à-dire que j'ai vu des réseaux faire de la publicité très rapide en offrant des années de cotisation pour récupérer des agents. Un, il ne faut pas oublier qu'un agent immobilier, quand il est connu localement et qu'il décide de rejoindre une enseigne, il est connu localement. Donc du jour au lendemain, c'est
pas
parce
que... Et vous voulez dire des réseaux qui ont fait des approches
tout à fait.
À des franchisés Plaza.
Oui, alors on peut avoir un peu de déontologie, qu'on fasse du business. C'est arrivé dans tous les métiers, y compris le CHR, ce qu'on appelle le café-hôtel-restaurant.
Mais là, c'est carrément tiré sur une ambulance. Hein.
Je veux pas arriver jusqu'à là. En tout cas, c'était un peu trop démonstratif, trop appuyé. Et au-delà de ça, je me suis dit, non mais zut, on oublie quelque chose. Vous savez, moi, comme je dis toujours, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier. Avant de faire de l'immobilier, je venais de l'hôtellerie-restauration de luxe. Voilà, j'ai commencé en 3 macarons Michelin. Eh ben, on avait que des hommes. Et pour y travailler, c'était très compliqué. Et on perdait beaucoup de gens. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés avec des émissions de cuisine, qui ont mis en place un certain nombre de choses pour faire en sorte que quoi ? On ait de plus en plus de femmes qui s'intéressent, justement, on en parlait, à la cuisine, qu'on ait de plus en plus de chefs d'entreprise et qu'on redore un peu le blason des métiers de la cuisine et de la restauration. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas aimer l'homme, juger l'homme pour plein de choses, mais en attendant, il a fait progresser la profession à vitesse grand V. Et je trouve qu'aujourd'hui, aller dire, ben voilà, on ne l'aime pas, ok, on est tous concurrents, mais avant d'être concurrents, on est confrères. en réalité. Et c'est ce que je dis souvent de nos syndicats. Je dis par moment, j'aimerais bien que nos syndicats, et on en parlera, mais soient peut-être plus réunis autour d'une cause nationale qu'est l'immobilier en France, et je pense qu'on aurait de meilleurs résultats. Alors voilà, c'était mon édito d'aujourd'hui.
Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous osez, dans une certaine mesure, mettre à l'ordre du jour, dans la discussion, des sujets qui sont parfois un peu tabous. Et là, quelque part, vous demandez finalement à la profession plus d'harmonie, de rassemblement. Parce que c'est ce qu'un peu vous dites. Vous dites, voilà, ça serait bien qu'on partage tous des valeurs communes.
Oui, moins alors, d'égo et moins de politique,
alors,
en fait.
Alors, vous n'êtes pas dupes. On fait tous du business. On fait tous du business. Mais on peut avoir des vraies valeurs et c'est pas antagoniste, en fait.
Oui, mais je pense que la réalité, c'est pas que quelqu'un est à terre qu'on doit s'amuser à taper dessus, surtout quand il a aidé une profession. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut arrêter de faire des raccourcis en disant que personne veut travailler et qu'on perd des collaborateurs parce qu'en l'occurrence, les collaborateurs sont mauvais. Et je pense qu'on doit balayer devant notre porte. Et je pense qu'en tant que dirigeant, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire en sorte de fidéliser ses collaborateurs.
Bien sûr. Il y a une chose que moi, j'ai toujours refusé de faire, c'est de hurler avec la meute. Et c'est vrai que quand, du jour au lendemain, vous passez d'un piédestal où tout le monde vous court après à quasiment la peste incarnée, je trouve ça intéressant à observer dans le côté peut-être versatile de l'âme humaine et des comportements. C'est toujours à l'occasion aussi d'y réfléchir. C'est pas très réjouissant, mais il faut quand même se rappeler que quand on parle de Stéphane Plaza, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté à la profession aussi. Il faut aussi le rappeler.
C'est exactement ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui,
Et d'ailleurs, vous l'avez écrit, puisque vous l'avez publié sur les réseaux sociaux. Vous n'entrez pas dans le jeu du fond de cette affaire. Vous dites simplement que vous êtes reconnaissant professionnellement à l'action de Stéphane Plaza. Je trouve que...
On n'a jamais autant parlé...
C'est extrêmement juste.
On n'a jamais autant parlé de visite virtuelle, de home staging. Ouais. Le client B2C, il avait une très mauvaise image de l'agent immobilier il y a 15 ans. Même si on faisait très bien notre travail, et on a le droit de dire qu'on faisait bien notre travail, mais on ne savait pas le faire savoir. Et ben, je trouve qu'aujourd'hui, les clients, en tout cas, et nos clients finaux ont beaucoup plus confiance et ils ne font toujours pas la différence de toute façon entre un agent immobilier et un mandataire immobilier. Hein. C'est pas leur sujet. Bien ce qui sûr. Les intéresse aujourd'hui, c'est celui qui va avoir le bien, créer une relation de confiance et vendre au meilleur prix. Donc je pense qu'il ne faut pas aller trop loin et se tromper de sujet.
Merci beaucoup pour ces mots. Ça annonce, les amis, un débat comme on les aime. C'est tout de suite après le jingle. Voilà les amis, dans ce nouveau numéro de Débat Immo, je vous garantis que vu la tonalité de ce numéro, l'année va être très sympathique aux côtés de Xavier Bellevaux. nous sommes tous réunis effectivement pour parler de ce sujet d'éthique, de partager des valeurs communes que peuvent être, alors des choses qui peuvent paraître ringardes pour certains, la loyauté, la confiance, l'honnêteté, le fait de tenir ses engagements, sa parole, ça peut paraître un peu ringard. Et il n'y a pas d'antagonisme, finalement, dans l'idée de devenir un très bon chef d'entreprise sans forcément devenir un guerrier tueur, un requin marteau, ou voilà, peu importe. Avec cette idée, pour réussir, il faut tuer, il faut être un requin, un killer, un combattant, etc., etc. Bref, une dialectique que moi, personnellement, je déteste, parce que je pense que quand on fait bien son métier, on n'a plus besoin, effectivement, d'essayer de se battre. Toujours avec nos invités, que sont Julien Bénard pour Kazam, Cécile Fernandez, coach en entreprise et formatrice, Arnaud Bialanex avec AVX Consulting, et bien sûr, notre président Olivier Safar pour l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Je vais commencer par l'idée, on parle d'éthique. Alors, Olivier Safar, on parle d'éthique.
Oui.
On voit bien... Parce qu'on a dit qu'on se dit tout. Que parfois, il y a des dissonances syndicales, sur des avis, sur des positions, à l'égard d'un métier, d'un segment comme l'immobilier, qui a été sévèrement chahuté depuis 2 ans, qui a subi une inflation fiscale et normative sans précédent. Quand on vous parle et on vous dit, voilà, comme le disait très justement Xavier, il faudrait peut-être qu'on ait des caps en commun, partager des choses en commun, des best practices en commun. Est-ce que ça vous parle, vous, en tant que militant syndical ?
Nous, ça nous parle fortement. Pourquoi ? Parce que on est l'UNIS, le représentant des actionnaires, on va dire, de l'immobilier. Quand je dis actionnaire, c'est-à-dire qu'on en est tous propriétaires, mais on est tous là pour donner un service. Et ça, c'est la différence de ceux qui imaginent qu'on est là que pour gagner de l'argent. C'est pas la réalité.
C'est l'image qu'a le public.
C'est l'image qu'a le public aujourd'hui.
L'agent immobilier avec les Ray-Ban, le voilà. Costume à rayures.
Pas toujours à rayures.
Non, mais voilà.
Les noir et blanc. Mais c'est ça, peut-être pas, faut pas exagérer quand
Olivier,
même.
Est-ce que le cliché à la peau dure ?
Le cliché à la peau dure, mais c'est plus celui-là aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, le principe dans nos entreprises, c'est d'avoir des valeurs. Et des valeurs que l'on partage avec nos collaborateurs, une première chose, mais avec nos clients aussi de la même façon. Et ça, c'est aussi une nouveauté, peut-être depuis une dizaine d'années, où quand on parle effectivement de valeurs, de transparence, de, on va dire, d'honnêteté, mais quand on dit honnête, c'est vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients. Et ce sont des choses différentes, ce sont des valeurs d'entreprise qu'il faut mettre en avant, et c'est grâce à ces valeurs d'entreprise que les collaborateurs restent et que les clients viennent. Je crois qu'il faut modifier les choses, ce n'est pas parce qu'on sera le meilleur combattant. On combat tous les jours. Je ne vous cache pas que combattre les nouvelles normes, les nouvelles règles, les nouvelles taxes, ça c'est un combat habituel du chef d'entreprise, quelle que soit l'activité.
Bien sûr.
En revanche, le point important, c'est de mettre en avant les valeurs, de mettre en avant nos valeurs à nous, partagées par nos collaborateurs, c'est-à-dire leur expliquer, les former, les accompagner, et faire la même chose avec nos clients. Aujourd'hui, le client, c'est pas uniquement le vendre un bien, c'est pas uniquement lui louer un bien, c'est l'accompagner dans les différentes démarches, l'accompagner sur son parcours et le revoir. Effectivement, bah, il va nous louer un appartement une première fois. Dans 3 ans ou 4 ans, il va revenir parce que son 2 pièces est trop petit, il a un enfant et il veut un 3 pièces. Et 3 ans après, il va vouloir acheter un appartement. Et derrière, bah, il va vouloir avoir un syndic. Bah, ça tombe bien, on est là, on l'accompagne depuis qu'il est rentré sur le marché immobilier. Bah, il va nous demander de prendre en gestion sa copropriété, où il a acheté d'autres appartements et il va nous demander de les gérer parce qu'on a trouvé des locataires qui étaient là pour effectivement payer un loyer, mais dans lequel on a permis de s'installer, permis de se développer et d'avoir un parcours de compréhension de l'immobilier.
Justement, je voudrais avoir l'avis pour introduire bien le débat sur cette idée d'éthique, de déontologie. On va parler notamment des soft skills, effectivement, et notamment de cette information majeure de la semaine dernière, c'est que le Conseil d'État va obliger dans un délai de 6 mois l'État à publier le décret de formation que l'on attend depuis 11 ans. Il faut rappeler que cette commission formation, elle avait été déjà constituée, qu'on attendait le décret d'application. Et qu'on attend encore également le décret qui permettra la création de la commission de discipline.
Hein, oui, toujours.
C'est le même texte. Hein. C'est toujours un combat, un combat à opérer. Ça vous évoque quoi, vous, qui êtes, Julien Bénard, service à l'immobilier dans la rénovation énergétique, notamment, et dans la formation, bien sûr.
Oui, alors ce qu'on vient d'aborder, c'est la capacité des agences à offrir un conseil à leurs clients. Et moi, je découvre le milieu de l'immobilier depuis 2 ans maintenant, et ce que je vois, c'est encore des agences qui ont un réflexe prise de mandat et donc de s'occuper du vendeur et pas toujours de l'acquéreur. Et on voit que dans le contexte de la rénovation énergétique, si on s'occupe pas de l'acquéreur, ben il va pas acheter la passoire et donc la passoire thermique, et donc forcément elle va nous rester sur les bras et on est embêté. Donc moi c'est ça que ça m'évoque, c'est le caractère indispensable de la formation sur ces sujets-là et l'évolution des valeurs vers un accompagnement des clients.
Vous pensez que la formation est un des vecteurs d'inspiration de ces valeurs fondamentales ?
Oui, alors les agents immobiliers qui viennent en formation, finalement, ils redécouvrent le plaisir à travers le sujet de la rénovation énergétique de conseiller leurs clients. C'est plus seulement je vous fais visiter la maison avec la salle de bain, la cuisine. Là, au moins, on rentre dans des sujets beaucoup plus techniques où ils sentent qu'ils ont une valeur ajoutée à apporter. Et vraiment, ils en sortent ravis. Ils ont envie d'aller s'éclater sur le terrain et de faire la différence auprès de leurs clients.
Alors justement, cette notion de formation, elle est importante parce que on peut tout entendre dans le mot formation. Est-ce qu'à votre avis, il est important dans les processus de formation d'injecter également un périmètre, j'allais dire, d'enseignement qui n'est pas forcément lié au métier? Que sont les valeurs de l'engagement, les valeurs de la réussite, les valeurs de la loyauté, de la confiance. Un peu presque une vision compagnonique. Vous savez, je fais allusion à l'association ouvrière des compagnons du Tour de France qui part du principe que pour bien travailler, pour remettre sur son outil de travail, l'établi, son ouvrage tous les jours pour peaufiner. Est-ce que vous croyez à ça ?
Carrément. Donc nous, on a créé un label pour devenir éco-conseiller en immobilier. C'est une manière vraiment de réenchanter le métier de l'agent immobilier, de lui, et de le convaincre que finalement, s'investir, se former, c'est une manière pour lui de se différencier. Et au-delà de ça, c'est d'avoir un impact sur la rénovation énergétique et sur donc, la transition dans laquelle on est inscrit.
Je pense aussi qu'il y a aussi cette notion de transparence, parce qu'on parle de formation. La formation, on l'a. À un moment, si tu veux être un bon conseiller immobilier et que tu veux perdurer, aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, vu au nombre de la concurrence, t'as pas le choix de te former, t'as pas le droit de faire attention à ton métier au quotidien, et ton client a toutes les informations maintenant très rapidement à portée de main, et par moments, pas les bonnes. Voilà. Donc, objectivement, la notion de transparence, elle est importante. Et je pense qu'il faut pas oublier quelque chose, qu'on est sur l'éthique, et je pense qu'il y a cette notion de transparence vis-à-vis de son client. Et tout à l'heure, tu parlais du vendeur-acquéreur. Pour faire très simple, je viens de l'immobilier d'entreprise.
Excusez-moi, Xavier, je vous coupe, mais... Transparence, c'est quoi exactement ?
Pour moi, la transparence, c'est un vrai reflet entre son client vendeur et son client acheteur. C'est en capacité de dire les choses, ni plus ni moins, dans sa réalité, dans sa globalité, sans enjoliver.
C'est ne pas mentir.
C'est des règles de base de confiance mutuelle.
Pour ceux qui nous écoutent,
comment tu crées de la confiance avec du mensonge ?
Non, mais transparence, ça veut dire, on se dit tout, et il n'y a pas de mensonge dans le process.
Mais... Et on souligne aussi les difficultés pour que l'acquéreur, par exemple, ou le futur locataire en ait conscience. C'est pas uniquement dire tout. Il y a des choses où vous allez le dire, mais les gens vont pas comprendre. À un moment, il va falloir expliquer les choses. Exemple, vous allez vouloir vendre un appartement qui aujourd'hui est en classé en G. Vous allez devoir accompagner votre acquéreur en lui disant, il est en G, c'est exact. On a fait les DPE. On a fait un DPE projeté avec différents travaux à réaliser. Voilà effectivement les travaux que vous aurez à réaliser si vous voulez effectivement le faire monter d'une note ou de deux notes ou de trois notes. Et là, vous allez effectivement arriver en conseil. Et ils vont nous dire, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est comment ? Est-ce que je change les fenêtres ? Ça suffit ? Et on va devoir lui répondre, mais non. Attention, ce n'est pas uniquement faire un seul geste qui va vous permettre de sortir, c'est toute une partie de progression et c'est ça la transparence. C'est les explications, c'est l'accompagnement, c'est pas ne pas mentir uniquement. C'est vous avez donné la formation, mais si elle clignote pas chez le client, vous allez devoir rallumer le clignotant pour lui expliquer ce que c'est.
Et sur ce sujet, oui. En fait, il y a quelque chose qui est extrêmement concret. Pourquoi est-ce qu'on rénove aujourd'hui ? En fait, le risque, c'est la précarité énergétique. Et donc, si on explique à son client acquéreur que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème, et qu'en fait, on ne le prévient pas de la hausse du prix de cette énergie, il encourt des risques dans le futur de pouvoir rembourser son prêt ou de payer son loyer.
C'est très clair. Céline, vous qui êtes... coach en entreprise, formatrice, vous connaissez bien l'écosystème, je voudrais vous citer les 8 qualités plébiscitées par les managers sur ce qu'on appelle les soft skills. En 1, il y a la curiosité, en 2, il y a l'autonomie, en 3, il y a l'écoute active, en 4, il y a la communication orale, en 5, il y a le respect, en 6, il y a la flexibilité et l'adaptabilité, en 7, il y a l'attitude positive, et en 8, enfin, il y a faire confiance. Ça vous parle ?
Ça me parle. Je crois qu'on a besoin de tous ces points-là. Alors parfois, on va être un peu plus agile et parfois, on va être un petit peu plus à l'écoute. On ne peut pas être à 100% sur chacun de ces 8 points. Et chacun va avoir en plus un 9e point, un 10e point, qui n'est pas forcément dans ces 8 soft skills. Juste pour repréciser, un soft skill, c'est une compétence comportementale qui vient en opposition à hard skills, où là, on est sur des formations justement métiers dont on parlait. Donc, c'est du savoir-être.
C'est de la
personnalité.
C'est très humain, en fait.
C'est les valeurs humaines. C'est comment je suis, comment je m'adapte dans la communication, dans les techniques de vente, dans le management aussi, pour un dirigeant ou une dirigeante. C'est quelque chose qui est inné, mais qu'on peut travailler. Donc, il y a des personnes qui vont être très, très fortes sur l'écoute, donc l'écoute active. Donc là, ils auront compris tous les besoins de l'acquéreur. Et à côté de ça, il y a besoin d'être agile et ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais tout ça, ça se travaille. Et en tout cas, moi, pour ma...
Sans que ce soit de la manipulation.
Jamais. Non. C'est de l'adaptation et de l'agilité. Voilà. C'est pas de la manipulation.
Non, mais la question est posée. Ouais. Parce que, regardez, moi, je suis déjà dépassé. Je suis à l'ancienne. Hein, donc, arrivé à 60 ans, on se dit, bon... moi, je me dis, je sais pas, curiosité, fiabilité... Faire confiance, moi, ça me paraît être des qualités humaines qui sont très liées à l'éducation. Et la question que je vous pose, vous, en tant que coach, est-ce qu'on peut apprendre ces valeurs à des jeunes qui entrent dans un métier ? Est-ce qu'on n'est pas censé déjà avoir un socle commun ? C'est une question, hein ?
Oui, on a tous un socle, mais il a une teinte, une matière, une couleur différente. Et après, il va simplement falloir développer sur la curiosité. Il y a tellement de choses dans le monde qui bougent avec l'IA. Alors on se dit, oh là, il faut tout mettre sur l'IA, c'est l'outil qu'il faut absolument. Mais si à côté, j'oublie d'être transparent, loyal, agile, à l'écoute, bah super, je vais faire des super prompts qui vont me faire des super posts sur LinkedIn, mais je n'aurai pas la confiance de mes clients. Donc c'est un socle qui existe, mais qui se travaille aussi en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de votre salarié, si vous êtes encore une fois dirigeant ou dirigeante.
Donc vous voulez dire que si l'IA fait vos posts,
elle aide,
elle ne reflètera pas ce qui est intrinsèque à l'âme humaine, c'est l'aspérité ou la singularité individuelle. Exactement. C'est la 9e valeur ou la 10e valeur.
Et c'est toutes les
qui fait que je serai très différent de l'autre.
C'est l'authenticité.
C'est ce qui fait que je suis différente des 8 autres milliards.
C'est important ça.
Ah bah c'est important, c'est la valeur.
Donc quand on dit qu'il faut standardiser les modes de management, vous n'y croyez pas une seconde.
Pas tellement. Non. Pour moi, tout doit être adapté. Comme on va vous vendre des super formations de techniques de vente.
Bien sûr.
Je pense qu'on est tous assaillis aussi sur Instagram et autres.
Devenez un killer en 5 leçons.
Voilà, mais en 5 minutes, vous gagnez 10 euros.
Avec 10 euros, gagnez 10 000 euros à l'heure.
Les anciennes techniques.
Il y a même des gourous, qui font des grandes conférences, dont certains d'ailleurs refusent de venir sur les plateaux. On en a invité quelques-uns, je dirais pas son nom, hein, mais ça commence par un M, hein, voilà. Mais et qui fait des posts un peu réac, etc. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire quel est le modèle qu'on défend, parce que moi, j'aime bien l'idée du gourou qui fait, qui fait une grande soirée avec 1500 personnes qui payent 50 balles chacun. J'allais dire, mais finalement, qui est le meilleur vendeur? C'est celui certainement qui fait la conférence.
C'est lui, oui.
Quelque part. Non, mais voilà, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'aime bien ce que dit Xavier, parce que ce qui est bien avec Xavier et ceux qui ressemblent à cette idée, c'est que on travaille bien quand on travaille bien tout le temps et qu'on fait bien son métier, quoi. Il y a quelque chose de presque artisanal qui est très plaisant, en fait, hein, dans l'idée.
Et qu'on se connaît bien soi-même aussi, parce qu'il faut être conscient et consciente de nos grandes qualités, nos grandes forces, nos grands leviers. Et à côté, il faut être aussi conscient de certaines zones d'ombre, d'axes de progression et d'amélioration. Si moi, vous me mettez sur les bancs d'une école où on va me former pour être agent immobilier, moi, je suis mauvaise en négociation, mais vraiment mauvaise.
Pourquoi?
Ben, c'est comme ça.
Je vais vous dire, ça n'a pas l'air.
Ça fait pas partie des 8 points, donc la goutte, ça va. Mais à côté de ça, j'ai d'autres qualités.
Non, mais en négociation, c'est que vous dites, je ne sais pas vendre, quoi, en fait.
Ah, je ne sais pas négocier et j'en suis consciente. Donc, j'ai intérêt de faire autre chose avec tous mes points positifs pour savoir me vendre, faire que les personnes viennent à moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Xavier, et je le remercie encore.
J'ai un super produit à vous vendre, vous allez voir, c'est extraordinaire.
Super, mais attention, je suis dure négociatrice dans ce groupe.
Si on revient sur le débat, ce qui est très important, c'est quand on le voit même quand on fait nos entretiens individuels avec nos collaborateurs. T'as 20 collaborateurs, t'as 20 demandes qui sont absolument pas les mêmes. Je veux dire, il y a plus de 20 ans, j'étais à ce moment-là, je disais toujours un gamin, je dirigeais une partie du groupe Baccarat, et j'avais une centaine de collaborateurs. Et en fait, à chaque fois sur la centaine, t'en avais 80. Je veux pas qu'on parle de mon salaire, ça va pas. Aujourd'hui, mais c'est plus du tout la priorité, je sais pas ce que tu
en penses. C'est pas la réalité aujourd'hui.
C'est pas la réalité.
On a toujours des demandes de salaire, parce qu'il faut qu'ils le disent, parce que c'est une règle, on va dire simplement. Mais c'est surtout comprendre les valeurs d'entreprise, savoir où va l'entreprise, comment on les accompagne dans l'entreprise, comment on les fédère, pour pas dire autre chose, et on nous demande, mais je veux une formation sur telle chose parce que ça me semble important, ou j'ai pas compris pourquoi vous allez dans ce sens-là, expliquez-nous dans quel sens on va. Et aujourd'hui, on a des outils pour faire ça. Quand on me dit je parle de salaire, moi je réponds prime de partage de valeur. Et d'un seul coup, ça s'éclaire chez les collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ah bon ? J'ai dit oui, si on est tous positifs, si on va tous dans le même sens, si on gagne plus, bah vous aussi,
Vous partagez.
Vous allez en participer.
Non, mais c'est intéressant.
Un point important, et ils le comprennent parfaitement. Et auparavant, il y a peut-être 15 ans, c'était peut-être pas dans leur
vision. Non, c'était pas dans l'ADN.
C'était pas dans leur ADN. Aujourd'hui, leur ADN, c'est que tout le monde aille dans le même sens. Et je vais dire que quand il y en a un qui fait peut-être des bêtises, c'est pas moi qui vais aller le voir. Ce sont les autres qui vont aller le voir en disant, t'es gentil, tu vas pas dans le bon sens. Et ça, je suis resté scotché quand c'était mes délégués du CSE qui sont allés voir un collaborateur qui n'était pas comme il fallait, qui faisait pas les choses et qui est allé lui dire, écoute, si tu comprends pas comment on travaille, quel est le principe que l'on a vis-à-vis du service au client, c'est pas la peine de rester.
Arnaud, ça vous...
Ça fait penser au sujet qu'on avait quand j'étais chez un grand opérateur télécom. On parlait par rapport aux collaborateurs, mais par rapport aux clients aussi, de trois types de fidélité. Fidélité aussi pour attirer, c'était la fidélité contractuelle, bon, j'ai un contrat.
J'ai un contrat, je dois.
Bon, alors ça vaut de moins en moins, ça, maintenant, le contractuel. voilà.
Hein. C'est vrai. Dans les télécoms, bientôt, on n'aura plus de salariés. voilà.
Donc là, c'est comme les ministres, c'est un CDD.
C'est rassurant. Eux, ils nous coûtent cher.
Ça a eu un petit chèque. Bon, maintenant, on compte moins là-dessus. La filité rationnelle. Je reste parce que j'ai intérêt à rester parce que il y a des éléments, on va dire, un peu matériels au sens large. La formation en fait partie, bien sûr, parce que ça, c'est une rémunération, la rémunération
rationnelle,
classique. Fidélité rationnelle. Et puis, il y a la fidélité émotionnelle. Je reste parce que je suis bien. Ouais. Et c'est pareil avec les agents immobiliers. Quand on va avec certains agents immobiliers, c'est pas parce que ce sont les moins chers. Donc, on n'a pas forcément intérêt à aller avec eux, mais parce qu'ils font bien leur boulot. Et donc, cette notion de travail bien fait a un prix. Moi, je pense que dans les entreprises, ça marche comme ça. Donc, les trois fidélités, mais celle qui doit être le plus développée, finalement, c'est peut-être l'émotionnel. C'est peut-être la plus dure, justement, avec les soft skills qu'on doit développer pour attirer, pour être différent. Hein, je parle.
Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je me souviens d'une phrase de Richard Branson, le patron de Virgin, qui disait quand des personnes veulent partir de mon groupe, je suis très content et je les accompagne. Il rajoute, je suis encore plus content quand ils veulent rester. Et je les accompagne aussi pour rester. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit, je satisfais mes salariés, mes collaborateurs, pour qu'ils puissent ensuite éventuellement voler de leurs propres ailes. Mais ce que je leur donne, là où je parachève mon œuvre, c'est quand ils veulent rester et qu'ils sont attachés. Et je pense que c'est vraiment la fidélité émotionnelle qui prend le dessus.
Alors ça me parle, parce que moi je suis un ancien Virgin, Virgin Mobile, qui était une des filiales, effectivement, et c'est exactement le...
Et il a vraiment sa chevillée au corps. Il se dit, j'essaye de convaincre les gens de rester. Il disait, j'essaie de convaincre les gens aussi de partir pour prendre leur envol. Mais s'ils restent, c'est encore mieux puisque j'ai atteint mon objectif, finalement, qu'ils puissent avoir envie de rester. Ça paraît nouveau, en fait, quand on le dit par rapport aux générations précédentes. Est-ce que cette rupture, dans l'attachement à ces valeurs-là, elle caractérise la jeune génération, vous qui la connaissez très bien au quotidien, les jeunes entrepreneurs, les jeunes start-upers? Est-ce que c'est une évolution ou pas?
Moi, je pense que le monde a changé, que le monde a évolué. Et effectivement, dans des jeunes entreprises, on n'est plus dans les groupes. Ces valeurs, il y a toujours elles ont évolué, quoi. On n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes critères. Et puis le monde a changé. Je vois l'espace de quelques années, vous voyez, on est passé de. Avant, il n'y avait pas de RTT. Moi, j'ai connu une période où il n'y avait pas de RTT et tout. On bossait comme des
hommes. Moi non plus.
Et des RTT.
Moi non plus. Mais Olivier, Xavier aussi. Hein,
ah oui, moi j'ai commencé.
Fait une époque, on a travaillé 7 jours sur 7, 10 heures par jour.
Voilà, et c'était normal. Moi, je viens de la grande distribution, on se posait moins de questions à l'époque sur les heures de travail. Donc, je suis peut-être un peu mal formé, déformé.
Grande distribution, hôtel-restauration, c'est un peu la même.
Syndic de copropriété.
C'est pareil aussi.
Hier soir, je suis rentré, il était 23h30.
Les esclaves, tout allait
bien. J'étais content de rentrer.
Mais dans ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'objectivement, on est moins dans l'éthique, mais on est plus dans une modification des changements. Il y a 20 ans en arrière, tu avais peu de papas qui prenaient un congé paternité ou un congé d'adoption, peu importe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'aperçois qu'aussi, à la maison, c'est partagé. Voilà, donc toutes ces choses ont évolué et tu le ressens dans tous les métiers, pas que dans l'immobilier. Donc, et je pense que c'est bien. C'est-à-dire que tout simplement, les valeurs ont évolué. C'est aussi le collaborateur vient plus chercher la même chose. Tu vois, moi, j'ai pas longtemps signé un dossier. Le client, il est venu parce qu'il a 30 collaborateurs et il voulait que ses collaborateurs donnent du temps en associatif, en local. Parce que ça le touchait. Il y a 20 ans en arrière, il y a personne qui aurait dit, je veux rentrer dans un réseau parce qu'il y a aussi cette brique-là. Voilà. Et je pense que.
Je pense qu'effectivement, je parlais des rationnels, contractuels, etc. Il y a quelques années en arrière, le contractuel était très très fort. Suivi du rationnel, c'était combien je vais gagner. Là, ce que je ressens, c'est en tout cas des jeunes générations, c'est que la partie émotionnelle est devenue de plus en plus forte. Et dans l'émotionnel, je vais mettre les conditions de travail. Je vais mettre le fait de pouvoir faire un jour de RTT, pas de télétravail. Ou pas. Le positionnement que va avoir l'entreprise par rapport à certains, je sais pas si par rapport à l'écologie ou.
Moi, je dirais Arnaud, la vision. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de la vision de l'entrepreneur et ils ont besoin de se dire, on a un chef d'entreprise qui nous représente, qui est notre reflet et sur qui je peux, tout simplement, je peux me confier, qui va pas me juger et qui va pas non plus me paterniser. Parce qu'en réalité, et ça, c'était aussi une difficulté qu'on avait à un moment. Voilà, je pense.
Ça, c'est une deuxième difficulté. Parce qu'à un moment, on est obligé, effectivement, de les former, de les accompagner, de les suivre, mais il faut qu'ils puissent, effectivement, se développer et avancer tout seuls. Et ne venir vous voir que quand il y a une difficulté, une incompréhension.
L'autonomie.
Et l'autonomie est un point important. Mais c'est pas laisser tout seul.
Et c'est là la différence avec, quand on parle de soft skills, l'autonomie, c'est pas la même chose que vas-y, débrouille-toi et viens pas me voir. C'est l'inverse. C'est tu es autonome dans les 90% de ton boulot. Quand tu as des points de difficulté, des incompréhensions, des besoins de formation, des besoins de compréhension, parce que dans certains cas, c'est un nouveau texte, ils l'ont pas compris.
Vous
et c'est notre rôle.
Et
on les accompagne. Et c'est notre rôle aussi à l'UNIS d'accompagner tous nos adhérents sur les nouveaux textes, sur la compréhension de ces textes, sur comment on doit les mettre en œuvre. Parce que la plupart du temps, on a une loi ou on a un décret. C'est écrit, on va dire, en vieux juridique. Pour certains, ce que m'a dit un de mes collaborateurs, il me dit, je comprends pas tout ce que ça veut dire. Et je lui dis, mais c'est simple, tu vas devoir faire ça, ça, ça et ça. Et il me dit, ah bon, c'est ce que ça veut dire? Je dis, bah oui. Et ça, on a un problème aujourd'hui, c'est de traduire tous ces points pour que ça ne soit plus une peur d'avoir à l'expliquer à ses clients et à le mettre en place.
Et le sens, enfin, est-ce qu'il y a du sens derrière tout ça? Parce que le traduit, effectivement, c'est un sujet, mais est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que je regarde les jeunes, je pense aussi, c'est ça, c'est l'engagement, la vision, le sens.
Est-ce que il y a un dernier point, les dirigeants d'agence, je suis désolé, mais ils ne sont pas des managers nés. On a très peu de personnes. Tu peux avoir une fibre commerciale. Manager, tu n'es pas, tu es obligé de te former pour
une formation.
C'est une formation. Il faut que tu... Et donc, en réalité,
ça s'apprend.
J'avais un maître d'apprentissage qui me disait toujours, quand tu rentreras dans une entreprise, Xavier, les collaborateurs, tu auras le reflet du dirigeant. Et on me disait, bah, tu vois, c'est tout bête. C'est comme quand tu rentres dans un restaurant, tu vas aux toilettes et qu'elles sont pas propres. Logiquement, on repart. Bon, bah, voilà. Bah, dans les faits, c'est vrai que souvent, souvent, ça se vérifie. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a aussi besoin de faire comprendre à nos dirigeants d'agences immobilières que ils doivent également s'ouvrir, se former, accepter qu'on peut pas avoir raison sur tout. Et surtout, accepter de dire à un collaborateur, j'ai eu tort, excuse-moi. Et je pense que ça,
c'est possible, c'est ça, Céline, de tenir ce discours. Parce que, alors, moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein, celui qui empêche de tourner en rond. Ah. Parce que je trouve qu'on est tous pétris de bons sentiments, là. Je suis ravi.
C'est pas le terme.
C'est pas pétri.
Non, je vais mettre en avant.
Je vais terminer. Si vous permettez, président.
Je vous en prie.
Le débat, toujours.
Oui.
Voilà, la vitalité du débat. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais il faut avoir beaucoup de bienveillance pour l'être, justement, pas d'accord. La question est la suivante, c'est que les entrepreneurs, je voudrais vraiment qu'on... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des toutes petites entreprises, ils se battent tous les jours pour faire du chiffre d'affaires. Et ils en prennent plein la tête. Et ils en prennent plein la tête parce qu'ils nous écrivent également, parce que parfois ils ne supportent plus leurs collaborateurs. Parce qu'ils sont trahis parfois. Oui, ils ont ce sentiment de trahison, cette perception de trahison. En France, il y a 4 950 000 entreprises de moins de 10 salariés qui aujourd'hui emploient les deux tiers de l'emploi national. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc l'emploi, il ne faut pas rêver. Il n'est pas dans les entreprises du CAC 40, il n'est pas au SBF 120, il est dans les entreprises de Xavier Bellevaux, dans les petites entreprises qui emploient la vitalité des territoires. Ma question est la suivante. On vit dans ce pays dans un régime protecteur du salarié, protecteur du collaborateur. D'ailleurs, il y a toute une dialectique autour de la célébration du collaborateur. Qu'en est-il de la place de l'entrepreneur qui porte tout sur lui? Il n'a pas droit au chômage, par exemple, s'il arrête son entreprise. Il a une couverture d'assurance qui est beaucoup moins avantageuse. Et vous le savez, parce que vous êtes devenue indépendante. Et je peux vous dire que c'est assez douloureux. je peux vous dire que c'est assez douloureux quand on y réfléchit. Bien évidemment, c'est aussi le sentiment d'acheter sa propre liberté quand on devient entrepreneur. Moi, ma question, c'est toute cette dialectique qui tourne autour du collaborateur, quid du manager, de sa forme, vis-à-vis des collaborateurs. Autrement dit, y a-t-il des collaborateurs un peu, qui ont un peu de gratitude, de reconnaissance, parce que sans patron, sans créateur d'entreprise, il n'y a pas de salarié, en fait. C'est une question que je pose. Souvent, j'entends ça, salarié, collaborateur, etc. Mais sans les patrons, on fait quoi? Rien.
Et sans les collaborateurs, les patrons...
Non plus,
Et si on remonte d'un niveau, Sylvain, sans clients, il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de dirigeants.
Voilà. Enfin, j'aimerais avoir votre avis sur cette question de la responsabilité qui pèse sur les épaules des petits entrepreneurs.
Il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont partis, qui sont allés s'installer pour créer leur société. Certains ont été volontaires, l'ont fait, ont réussi, parce qu'ils ont eu la fibre de pouvoir le faire. D'autres sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne seront jamais patrons, qu'ils sont incapables effectivement de faire le métier et de gérer l'entrepreneuriat en même temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même fibre, ce n'est pas la même gestion. Et on se rend compte aujourd'hui que certains ont voulu aller créer leur agence immobilière dans un coin, ils étaient peut-être très bons commerciaux, mais nuls au niveau gestion.
et ce sont les premiers qui sont venus vers nous. Même chose pour la copropriété, même chose pour les promoteurs à un moment, ça a été la même chose. Donc aujourd'hui, on a cette vision qui est deux visions différentes. Les gens veulent opposer collaborateurs et entrepreneurs ou patrons, c'est pas le cas. La plupart du temps, ils sont ensemble pour faire travailler les choses, pour s'occuper de leurs clients.
Okay,
et ça c'est une vision.
Ça, c'est votre point de vue intéressant. Céline, sur cette question, qui rencontrez des entrepreneurs tous les jours.
Oui, et j'ai en tête un très bon ami qui a eu une agence avec jusqu'à 28 collaborateurs et qui marchait extrêmement bien, qui a été un record de vente et qui aujourd'hui a quitté l'immobilier parce qu'il n'en pouvait plus d'être juste sur du management. Il m'a dit, c'est que des problèmes humains, c'est de la gestion, c'est les problèmes, c'est les absences, c'est les trucs qui ne vont pas. Il m'a dit, j'ai l'impression parfois que je règle un peu des problèmes de cours de récré. Et c'est compliqué d'entendre ça, mais c'est aussi voilà, le quotidien des dirigeants de petites entreprises.
On ne peut pas s'y soustraire à ça.
C'est la réalité, en fait.
Et tout le discours que l'on tient aux collaborateurs pour qu'ils restent, qu'ils soient motivés, qu'ils partagent des valeurs écologiques, philosophiques, hindouistes, ce qu'on veut. Parfois, je suis d'une génération, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Moi, je suis un ancien compagnon du devoir. Hein. Donc, j'ai été élevé dans le travail, donc c'est effectivement, j'ai plus rien, je suis formaté comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois des discours, et là, je me dis, mais soit c'est moi qui ai vieilli, franchement, mais je me dis, je suis complètement à l'ouest. Parce que je vois une telle dichotomie entre ce que l'on propose comme valeur à ces jeunes et à ces jeunes aux entrepreneurs qui n'en peuvent plus.
La mauvaise nouvelle, oui, vous avez un peu vieilli, mais tout le monde.
Non, mais c'est vrai.
Je me sens, c'est une bonne nouvelle. En tout cas,
moi aussi,
je me sens très vieille face à certains comportements des nouvelles générations. Et quand vous me disiez, est-ce qu'il y a
quand même pas supplier les collaborateurs de rester dans l'entreprise.
Non, mais en tout cas, il faut tout faire et mettre ce climat pour qu'ils aient envie, donc, d'être là avec les mêmes valeurs partagées, parce que individuellement, on a des valeurs, mais il faut qu'elles soient en adéquation avec celles de la marque et de l'entreprise.
Quand même deux sujets dans ce que vous dites, il y a un sujet de formation parce qu'aujourd'hui, un dirigeant, quand tu es conseiller en agence et que tout d'un coup tu veux ouvrir ton agence, la réalité, on va te former sur ton métier, on va te former un peu sur le juridique, mais personne va t'apprendre à lire un bilan, à savoir gérer ta trésorerie, à savoir ce que c'est que ton compte de résultat détaillé. Donc je pense que déjà, nous, il faut qu'on se dise qu'en réalité, il y a un problème sur ce point-là.
Très juste.
Ça, c'est un premier point. Sur le deuxième sujet, un agent commercial, par principe, il est isolé, il est seul.
Il est tout seul.
Quand du jour au lendemain, il devient manager dans ton agence, c'est pareil. Si là, tu lui mets pas une formation, et c'est pareil dans tous les métiers, y compris pas que l'immobilier. Quand tu passes un collaborateur qui évolue et qu'un certain temps tu lui dis bah tiens, tu vas devenir manager de 4 personnes mais que tu donnes pas la formation et qu'après tu dis qu'il est pas bon, c'est toi qui as pas fait le deal. Parce qu'en réalité, il faut le former. Alors, à un moment, il faut arrêter de.
Et t'as des commerciaux qui ne veulent pas être manager.
Bien sûr, mais ça se comprend.
Je le dis, hein, parce Bien que sûr. Moi je l'ai vu chez des personnes que j'emploie. Quand je leur ai demandé, ok, ça marche très bien au niveau commercial, on va vous mettre une ou deux personnes, vous allez les former, les accompagner. Et la réponse a été non. Je suis incapable de les accompagner, incapable de les former, incapable de les manager. Et il me dit, on va rajouter d'autres, mais pas moi pour les diriger. Ce n'est pas ma capacité.
Il y a un dernier élément qu'on n'a pas cité et qui répond à ta question, Sylvain, c'est si on veut pouvoir embarquer des collaborateurs avec nous, c'est d'abord bien les recruter, parce que s'ils ont les soft skills, on y revient, qui sont en accord avec les valeurs de la société. Moi, j'ai la chance
bien recruter,
de pouvoir
aussi
embarquer
bien
les collaborateurs payer. Parce qu'ils ont été finalement bien recrutés. On a été hyper exigeants sur cette partie-là.
Mais bien les payer, Sylvain, c'est pas la seule.
Dans l'arsenal, dans la composition. Bien recruté, c'est aussi bien rémunéré, bien intégré, etc.
Ou c'est
pas
un package global.
Mais dites-moi,
dans ma stratégie, malheureusement, je peux pas rémunérer à la hauteur que je souhaite mes collaborateurs. Donc, mais je n'arrive pas là-dessus. Je parie sur.
Mais vous arrivez à recruter.
On y arrive, mais alors on y arrive aussi à travers une chose qui est la reconversion professionnelle. On en a parlé, les soft skills permettent la reconversion quand on a des personnes qui sont curieuses. On arrive à les faire changer de boulot et en fait, souvent, on découvre des talents qui ont des exigences moins élevées d'un point de vue salarial parce qu'elles sont en train de se reconvertir et on a la chance de pouvoir capter du talent à un endroit où à moins cher finalement.
Juste un dernier point, Sylvain, parce qu'on parlait beaucoup d'éthique, mais on n'en a pas beaucoup parlé d'éthique immobilière et moi je voulais qu'on revienne quand même sur le sujet de l'éthique immobilière. Parce qu'à un moment, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on parle du bien fondé de l'agent immobilier qui s'entend bien et de nos syndicats qui nous défendent. J'ai la chance, d'être un réseau hybride, donc à la fois d'avoir un pied côté agent immobilier et d'avoir un pied côté mandataire immobilier. Et c'est vrai que de plus en plus, ça s'était un peu estompé, mais je le revois à nouveau. On a des agents immobiliers qui ont un discours un peu, par moment, et surtout en cette période, un peu compliqué vis-à-vis des mandataires, mais c'est aussi, je le vois maintenant, venir un peu plus du côté des mandataires. Et on parle d'éthique, et c'est là où j'ai du mal à comprendre. Et c'est là où je veux bien un peu d'explication. Mm-hmm. Notamment, on dit toujours qu'il y a souvent les professions immobilières, on pourrait être plus entendu. Parce qu'on se retrouve avec une ministre qui aujourd'hui est présente depuis un petit moment.
Oui, voilà. Mais qui connaît nos métiers.
Très bien.
Et il faut le dire, il faut le mettre en avant.
Et qui malheureusement n'a pas assez de moyens.
Voilà, mais ça, bien sûr. C'est notre gouvernement actuel.
Mais justement, et à quel moment l'ensemble de nos syndicats peuvent se réunir pour justement essayer d'être plus puissants ensemble qu'individuellement? Et c'est un peu le sujet que je partage entre les agents immobiliers et les mandataires, où je trouve que chacun tire un peu sa couette, mais on en oublie une chose. On oublie que le client, on se plaint. Moi, c'est tout bête, hein. J'ai beaucoup appris avec mon nouveau réseau, parce qu'en Belgique, 90% du marché passe par les agents immobiliers, en fait. Voilà, c'est une réalité.
Oui, mais il y a un
ordre. Nous, on a encore 40% à peu près.
En Belgique, il y a un ordre.
On n'arrive pas à 50%.
Non, mais attendez, en Belgique, il y a un ordre qui s'appelle l'IPI.
Oui, on est d'accord. Mais
voilà. Donc, c'est très hyper réglementé.
En Angleterre, c'est organisé aussi de la même façon.
Mais quelque part, avec la formation qui va se mettre en place et le décret, avec les 42 heures, quelque part, on va aussi mettre en place une forme de capacité chez nous qu'on n'avait déjà pas. Donc, c'est déjà une petite victoire, même si on formait déjà. Mais je me dis, voilà, je ne sais pas comment Arnaud, qui est au contact des mandataires et des agents immobiliers, comment tu l'expliques? Parce qu'en réalité, on se fait tous des bisous quand on se voit à une soirée. Dans quelques jours, il y a les agents, une noble cause qui est les agents immobiliers ont du cœur. Tout le monde va se faire bisous. Mais en réalité, dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Donc moi, j'aimerais comprendre. Voilà, je suis peut-être un peu débile. Je suis désolé, Sylvain. Mais voilà, aujourd'hui, je suis en forme. Voilà.
Wow. Ouais. Alors, non, mais j'imagine 1500 personnes en train de se faire des câlins. Bon.
Ça, c'est pas la même soirée.
C'est au palais de la Méditerranée.
On va rester. Alors, on va laisser les bisous.
Alors, voilà, c'est au palais de la Méditerranée. Et en plus, ce qu'il vous a pas dit, c'est que c'est moi qui anime la soirée. Donc.
Ça, je le savais pas.
Le nouveau shérif en ville, en fait.
Bien vu. Alors, il a un petit côté, il y avait une série. Je vais pas le rajeunir si je parle de cette série, mais.
Quelques éléments. Non, on va être sympa.
Merci, monsieur. Ça fait plaisir d'avoir des amis.
Il y a quelques éléments, effectivement, qui expliquent cette recrudescence peut-être de posture pas très positive d'un côté comme de l'autre. Hein.
Bien sûr.
Que c'est pas une profession ou un statut plus qu'un autre.
Ça donne pas forcément une bonne image.
Oui, c'est clair. On empathie finalement collectivement. Mmh. Je crois le sujet, c'est que déjà que le marché s'est contracté. On sort d'années quand même qui ont été un peu exceptionnelles en termes de volume. Là, on est revenu à quelque chose de plus cohérent.
Rationnel.
Avec 750 000, 800 000 unités. Mmh. Donc le marché se contracte, mais revient à un niveau d'avant. Sauf que le gâteau, lui, est plus petit. Il faut le partager entre des hybrides comme toi, comme des réseaux de mandataires, les agences traditionnelles, etc. Donc ça durcit la situation concurrentielle. Après, il y a les sujets d'accès au crédit qui se sont durcis aussi avec les directives de HCSF, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir achat immobilier qui revient sur le devant de la table, puisque les taux baissent, mais le vrai sujet, c'est l'accès au crédit. Le primo-accession sociale, elle a disparu. Hein. Moi, j'ai eu la maison individuelle encore il y a quelques années. Ça a disparu. Ces gens-là, ils voudraient bien, mais ils peuvent point. Quoi. Je veux dire, ils ont,
ça, ils ont beaucoup moins de mètres carrés qu'avant et ça a pris 20% d'augmentation au niveau des matières premières.
Donc, le niveau d'exigence, le niveau de dureté globalement du marché, il a explosé. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose, des éléments un peu techno aussi qui peuvent crisper la profession au sens large. C'est le sujet de révolution technologique. Hein. L'IA, entre autres, mais pas que. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment inscrits dans ce mouvement technologique qui peut faire peur. Et je pense que ça crée des tensions. Et puis après, et c'est à la fois une opportunité et un risque, une menace, c'est tout ce qui touche aussi aux lois environnementales. Si on n'est pas dans le domaine on n'est pas un tiers de confiance sachant sur tout ce qui est réglementation environnementale et donc les DPE, enfin ce que propose traiter le sujet de la rénovation énergétique, on est hors du marché. Et je pense que c'est ça qui crée des tensions sur le marché, que ce soit le statut. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Sylvain, c'est que le niveau de compétence aussi des clients, en tout cas, facialement, il a augmenté avec l'IA notamment.
On a beaucoup plus d'informations.
On a plus d'infos. Donc finalement, le client final qui passe beaucoup en PAP, finalement, il devient un peu plus sachant presque que certains agents immobiliers. Il en sait plus. Et je pense que c'est ça qui crée des crispations.
Toujours. Pas toujours, alors, quand même.
Je vais répondre. Sur le net,
c'est un débat. Hein.
Voilà, ils trouvent toujours 80% du texte, mais ils ne comprennent pas qu'ils se retrouvent dans les 20% des exceptions ou des différents points qui sont spécifiques. Et à chaque fois, je leur dis, attention aux collaborateurs, vous avez été formés là-dessus, vous savez, dans certains cas, ils vont vous dire, ouais, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Vous allez leur dire, attention, ça, c'est 80%. Là, ce n'est pas le cas. Attention, on a des visions différentes, on a une analyse différente, et on ne va pas vous répondre dans la seconde, parce qu'on pourrait vous vous dire des bêtises.
Bien
mais
sûr.
C'est parce que vous allez dire qu'on doit analyser, qu'on doit regarder, que le client va rester. Parce que si vous leur dites non, c'est pas du tout ça, vous perdez le client. Si vous leur dites vous avez toujours raison, vous l'avez perdu parce que vous n'avez pas montré que vous êtes capable de l'accompagner. Donc à un moment, vous allez devoir lui dire oui, il y a des DEX, il y a une nouvelle législation, il y a de nouvelles obligations. C'est comme ça dans 80% des cas, mais il faut vérifier que vous n'êtes pas dans les 20% des difficultés pour pas que vous soyez coincé après. Et ça, c'est notre rôle de les accompagner sur ce point-là. C'est notre rôle de former les collaborateurs. Quand on a formé tous nos agents en transaction sur la rénovation énergétique, la première fois, on nous a regardé avec des grands yeux en disant ça sert à rien. C'est les gestionnaires de copropriété et gestionnaires locatifs qu'il faut former. J'ai répondu mais non. Le gestionnaire locatif, on le forme, ok. Mais le gars qui va faire la location de l'appartement, il a besoin de savoir ce qu'on a fait. Celui qui va vendre l'appartement, il a besoin de savoir ce qui est à faire. Et ça, c'est une obligation aujourd'hui. Et donc, si vous n'avez pas fait ces formations, effectivement, ils sont tous aigris, ils sont tous nerveux parce qu'ils ne sont pas au niveau par rapport à la clientèle et par rapport aux autres confrères. Et ça, c'est une deuxième difficulté.
Arnaud, vous lisez rapidement. Ensuite, Céline.
Sur le sujet de la rénovation énergétique, en fait, ça concerne mais finalement un nombre de professions qui est énorme, puisque tous les professionnels de l'habitat, on peut dire que c'est à peu près 500 000 professionnels, à un moment, doivent toucher de près ou de loin ce sujet et donc apporter un certain niveau de conseil. Donc, je vous rejoins totalement.
Alors justement, c'est important ce que vous dites parce que je voudrais qu'on ajoute le monde des bailleurs sociaux et la construction. C'est 2 millions de personnes au total. Et c'est important parce que il y a un effet collatéral dans ce que vous dites. C'est-à-dire que faire par exemple de la rénovation énergétique, c'est faire travailler toute une chaîne de valeur dans la construction. Et d'ailleurs, c'est un des relais de croissance de la construction à cause de la chute majeure et dramatique de la construction de logements neufs. C'est un vrai sujet. Céline, vous vouliez intervenir?
Pas spécialement, mais je suis assez d'accord avec tout le monde. J'étais dans l'écoute active, voilà. J'étais. Non.
Alors, je voudrais qu'on termine très rapidement avant le focus avec le vrai du faux. On va faire ça avec vous, mon cher Julien, sur la réno, justement, qui est vraiment la dent creuse en ce moment. Et alors, justement, on parlait de ce fameux décret. Alors, je vous le dis, c'est une initiative qui a été initiée, vous le savez, par la FNAIM. C'est une procédure qui a été instillée et engagée par la FNAIM, qui date de plusieurs années, sur l'obligation. En fait, c'est incroyable quand même. Il y a une loi quand même qui a été promulguée il y a 11 ans, sans décret d'application pour certains pans de la loi. Il était temps. Ce qui est très intéressant, je voudrais avoir votre avis sur la question, c'est que ce sont les professionnels de l'immobilier qui enjoignent le gouvernement de publier le fameux décret formation. On pourrait se dire, il y en a certains, ça les rend fébriles. Je vous le dis, je ne vais pas donner de nom. J'ai reçu des appels, des commentaires de certains réseaux que ça n'arrange pas du tout.
Ça, j'ai du mal à comprendre.
Alors, je vous le dis que ça n'arrange pas du tout.
Je suis étonné.
Franchement.
Et certains réseaux, je vous le dis, comme ça, ce serait très clair. Encore une fois, je ne donne pas les noms. Si sur les 10 réseaux qui ont appelé, il y en a 9, ce sont des mandataires. Ils me disent, ça ne nous arrange pas du tout. Et du coup, on est en train de réfléchir. Genre, limite, on est limite fébrile. Alors, explication, réaction. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, la parole circule. On va commencer par vous, Président Safar.
Alors, le Président Safar, il va répondre que ce sont déjà des points que l'on a mis en place chez nous, pour nos collaborateurs. Auparavant, la plupart de nos confrères...
Rappelons déjà ce qu'il y a dans le décret. C'est quoi le décret?
Alors, le décret, normalement, c'est 42 heures sur 3 ans ou 14 heures par an pour avoir la carte professionnelle.
Mais c'était déjà le cas.
C'était le cas pour les dirigeants, uniquement pour la carte professionnelle. Dans le texte de la loi Allure, il était indiqué que tous les collaborateurs qui étaient en relation avec la clientèle devaient aussi être formés avec ce même nombre d'heures, 14 heures ou 42 heures sur 3 ans.
C'est tout le monde, alors?
C'est tout le monde. Alors,
les mandataires, pareil.
Aujourd'hui, si on lit
l'assistante commerciale de l'agence, pareil.
Si on lit le texte de loi, la réponse est oui. Est-ce que dans le décret, ça figure? Non. Aujourd'hui, le décret ne reprend que la partie des dirigeants pour la carte professionnelle et le rôle de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, pour délivrer ces cartes professionnelles. Le décret est un décret d'application pour le délivrance
de
la carte professionnelle. Donc aujourd'hui, vous êtes mandataire, c'est votre tête de réseau du mandat qui doit avoir, lui, les formations et qui, bien évidemment, va se dire « j'ai fait mes 42 heures sur 3 ans et tous ceux qui sont mandataires en dessous, parce qu'ils sont sous la tête de réseau, ils n'ont pas besoin de faire ces formations. »
Ah, donc vous êtes en train de me dire que les mandataires avec le décret d'application, n'ont pas l'obligation faite aux agents immobiliers.
Sauf que la plupart des mandataires le font. Ils font les formations de leurs collaborateurs.
Non, je parle d'obligation, Olivier.
Alors, obligation,
est-ce qu'ils sont visés par l'obligation ?
Alors, je vais répondre. Quand vous avez un réseau à gérer, vous avez une obligation de former vos collaborateurs. Si vous ne les formez pas, vous allez perdre les clients et vous allez avoir les procédures derrière.
Olivier,
que les choses soient claires.
Olivier, ce n'est pas le sens de ma question. Ma question, c'est dans le texte. Ce texte ne s'applique pas, dans la lecture, aux mandataires.
Il ne s'applique pas aux agents immobiliers de la même façon, qui sont salariés d'agences immobilières. Il ne s'applique pas aux gestionnaires de copropriété ou aux gestionnaires de locatifs dans les agences ou dans les administrateurs de biens. Pourquoi ? Parce que ce n'était que les dirigeants qui étaient concernés. Sauf que quand on lit le texte, nous on considère qu'on doit monter tout le monde en compétence, et monter en compétence tout le monde, c'est de pouvoir rendre un meilleur service à nos clients et de dire on est meilleur que les autres parce que chez nous aussi, tout le monde est formé et tout le monde peut vous accompagner derrière sur ces nouvelles règles, sur ces nouvelles obligations, sur le point important qui est le service aux clients.
Xavier Belbeau.
Pour faire simple, moi je trouve un peu surpris parce qu'en réalité, aujourd'hui, les réseaux de mandataires, de toute façon, forment.
Ils forment.
Ils n'ont pas le choix, les mandataires comme des agents immobiliers, parce que c'est la demande des mandataires immobiliers. Et depuis 4-5 ans, on voit bien depuis l'effet Covid, parce qu'après 2020, c'était un peu la fin de beaucoup de choses, les gens qui étaient en reconversion se sont arrêtés. Voilà. Et on est revenu à des principes. Donc aujourd'hui, on le voit bien. Nous-mêmes, quand on rentre des mandataires immobiliers, ils sont formés comme s'ils étaient conseillers immobiliers en agence. On n'a pas le choix. Parce que de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Et quand bien même, on délivre des attestations d'habilitation, mais qui sont liées à notre carte pro. Donc si on ne les forme pas, le risque, elle est pour notre carte pro. Donc on n'a pas le choix, on doit les former. Et de toute manière, nous, on est... Parce qu'en fait, il faut quand même le rappeler, et de temps en temps, il y a des choses très bien. L'UNIS, c'est le seul syndicat qui a à la fois des mandataires immobiliers et des agences. Tout est disponible et on voit bien qu'on peut former l'ensemble de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, ça me paraît surprenant. Ou alors, c'est vraiment des tout petits réseaux qui ne sont pas structurés. Mais des gros réseaux aujourd'hui, de toute façon, des reconversions,
mais Fébrile, dans le sens de l'obligation, dans le sens de...
Mais
finalement,
il faut de l'obligation. Voilà, en réalité, c'est un métier.
Là, je raisonne...
C'est un vrai métier. Les mandataires... Ça nécessite des compétences. Et ces compétences, elles évoluent. Tout le temps.
Des Olivier soft Sapin. Skills et des hard skills.
Olivier Sapin, justement, réponds. Xavier Belbeau, vous confirmez ce que dit le président Sapin ? Il n'y a pas d'obligation faite au mandataire.
Moi, pour ma part, ma lecture du décret dit que tous ceux qui détiennent l'attestation d'habilitation ne sont pas concernés. Non. Pour ma part, quand tu rentres un collaborateur en agence conseiller, qu'il soit agent co en réalité ou salarié, et pour moi l'agent co c'est un peu comme un mandataire immobilier, dans les faits, ils doivent se former sur cette partie-là, donc les 42 heures, ils doivent l'avoir.
C'est donc une volonté de l'entrepreneur.
Oui, c'est une volonté.
C'est important. C'est de l'actu. Je réponds à ceux qui nous écoutent. Dans le décret, ils ne sont pas visés, mais de toute façon, c'est clair. Quand l'employeur, la tête de réseau, forme ses collaborateurs, qu'ils soient indépendants ou non, dans ce cadre-là, et c'est son intérêt. C'est ça qu'on dit.
Sylvain, il y a trop d'obligations aujourd'hui faire en sorte d'avoir un collaborateur qui ne se forme pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête.
Voilà, je vais répondre. Quand on fait des recrutements, moi je fais des recrutements de gestionnaires locatifs, des gestionnaires de copropriété, quand je leur demande les formations qu'ils ont suivies chez leur précédent employeur, certains m'ont répondu, mais on n'a pas été formés du tout. On n'a rien eu. Vous avez eu quoi ? Eh bien, ils nous ont envoyé des emails en disant « voilà le nouveau texte ». J'ai dit « mais l'email, c'est bien pour que vous ayez l'information avant la formation, pour que derrière, on vous dise comment il faut le lire, comment il faut le comprendre, et ensuite, comment on le met en œuvre ».
C'est plus inquiétant, je trouve, pour les dirigeants d'agences immobilières indépendantes de 2-3 collaborateurs qui font moins de 250 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires, qui ne sont pas équipés ni en e-learning, ni en structure de formation, ni structure juridique. Là, par contre, je trouve que c'est plus inquiétant pour eux, en réalité, que pour les réseaux qui sont logiquement structurés.
Les groupes immobiliers.
Je vais répondre. J'adore. D'où l'intérêt d'aller dans un réseau.
Les formations en ligne existent à l'UNIS. On a des formations en ligne sur beaucoup de choses. Voilà. On a des formations sur la déontologie. On a des formations sur les pratiques à mettre en œuvre pour les différents métiers, que ce soit gestion locative, copropriété, transaction, promotion, expertise. Tout ça existe. Okay. Et il y en a certaines que vous allez devoir faire en présentiel parce qu'à un moment, c'est du soft skills. Il faut qu'il y ait la relation entre les uns et les autres. Mais il y en a d'autres que vous allez pouvoir faire en ligne.
Olivier, 14 en ligne et 28 en présentiel.
Voilà, le temps nous presse et on veut faire un focus avec notre séquence Le Vrai du Faux. Vous voulez ajouter un point sur la formation rapidement, Céline et Arnaud ? Sur la formation.
Elle est indispensable, quel que soit le statut. D'accord, je pense que.
Et puis
ça va faire monter en compétence tout le monde, et peut-être qu'un jour on arrivera au taux d'intermédiation de 90 ou 100% qu'on a dans les pays très proches. Quoi. Okay. Donc ça ne va gêner ces sujets de formation que ceux qui sont.
Ce que disait Xavier.
Voilà, donc on est complètement en phase.
Céline, peut-être un mot, non ?
J'entends aussi qu'il en va de l'image de marque, parce que derrière un mandataire, on a une personne, un monsieur qui va s'appeler Jérôme et qui est super, et puis un jour, il va faire n'importe quoi, et ce Jérôme, bah, derrière, il porte aussi les valeurs d'une marque, donc je trouve que c'est en plus très important pour l'image de marque.
C'est sûr. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, puisqu'on a une séance que l'on fait chaque mois. On va parler avec Julien, justement, de la rénovation énergétique. On va essayer de décrypter une petite séance de quelques minutes, juste avant de nous quitter, pour ce nouveau numéro de Débat Immo, tout de suite après. Kazam, ouvre-toi. Voilà, Kazam Pro. Julien Bénard, cofondateur de Kazam. On peut faire un point sur la dense actualité de la rénovation énergétique. Justement, alors, 403 000 logements ont été rénovés en France en 2024 contre 624 000 en 2023. Un échec pour le gouvernement qui s'était fixé comme objectif d'atteindre 500 000 rénovations cette année-là et une baisse de 35% en un an. On peut pas dire que ça va dans le bon sens.
Non, pas du tout. Alors c'est encore en effet l'heure du bilan, on est encore en début d'année, mais savoir comment on explique cette baisse, on parle d'IMO aujourd'hui, elle s'explique en partie par le ralentissement du secteur immobilier, hein. Le nombre de ventes a diminué d'environ 100 000 biens sur l'année 2024, et on sait qu'en fait la rénovation est étroitement liée à l'acquisition d'un bien immobilier, et en particulier tout ce qui est rénovation d'ampleur, qui est le grand objectif de l'État. Et on le sait, c'est le moment privilégié, l'achat immobilier, pour réaliser ces rénovations d'ampleur. Donc ça explique une partie de cette baisse. Le deuxième élément, c'est vraiment les tergiversations qui ont eu lieu en termes les différents systèmes d'incitation pour la rénovation ont très vite été revus en début d'année 2024, et ça explique une grosse partie de cette baisse. Et ce dont on se rend compte, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et apporter un peu de valeur, c'est que donc la moitié de la baisse sur les rénovations, donc le chiffre que tu as cité, concerne les pompes à chaleur RO, donc des pompes à chaleur qui sont le grand objectif de l'État, parce que l'objectif c'est de décarboner le logement et donc de supprimer les chaudières gaz et fioul. Et donc en fait on se rend compte que quand il y a une baisse des aides ou des tergiversations sur les aides, et ben c'est cette fameuse pompe à chaleur RO qui fait un petit peu tousser le secteur. Et on voit donc là encore l'importance des aides sur certaines typologies de produits, en particulier la pompe à chaleur RO.
C'est très clair. Dernière question, et ensuite on va faire aussi dans quelques instants le lab avec notre amie Céline. On va faire un focus sur son activité. Je voudrais qu'on dise à toutes celles et ceux qui nous écoutent concrètement, comment on fait pour engager les Français dans les travaux de rénovation énergétique? Est-ce qu'on a un tuyau? Comment il faut faire pour être extrêmement simple?
Mais on a parlé de soft skills, et en fait moi je lis ça à la question de confiance. Les Français ont besoin de confiance.
Prosaïquement, le premier critère.
Les Français, c'est le premier critère, ont besoin de confiance sur un sujet de rénovation énergétique. Ouais. Et ça s'amène avec des soft skills.
C'est fou, la confiance, il suffirait d'avoir un langage clair du gouvernement avec les rétropédalages sur ma prime rénov par exemple, ou ma prime rénov sérénité, ou pour le fonds vert pour les élus locaux, où ça a été une galère sans nom.
Le temps pour récupérer les subventions.
Et pour instiller le manque de confiance. Quoi.
C'est ça, c'est la confiance à tous les étages, auprès du pouvoir public, clair. Des professionnels, etc. etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment là on va retourner sur le sujet de la formation, mais comment est-ce qu'on aide les professionnels à donner confiance à des particuliers, ça se travaille.
Et à y voir clair. Et
ça se travaille tout ça.
Voilà, et ben c'est simple, c'est kazampro.com.
Kazampro.com.
Voilà, Kazampro. Avec le tiré. Il est bon.
Il a raison bon. Pour le pro. Merci. Parce que ça prouve qu'il accompagne les gens.
Merci pour Kazam. Dernière séquence avec vous avant de nous quitter. On va parler du lab tout de suite après ça. On va tout de même pas s'en priver, voilà, on va faire un focus sur vous, Céline Fernandez, coach en entreprise, c'est la grande mode, on a l'impression que tous ceux qui ont 15, 20 ans, 30 ans d'expérience se reconvertissent dans le coaching, dans l'accompagnement, etc. C'est une activité qui a explosé littéralement depuis ces 20 dernières années, c'est phénoménal. Aujourd'hui, c'est quoi être un coach en entreprise concrètement?
Quelle grande question, j'ai combien de temps pour répondre à ça?
Oh, vous avez à peu près jusqu'à demain, 21h.
Ah bah parfait. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, derrière le mot coach, on n'entend pas forcément la même chose. On peut être un coach, un mentor, on peut être un consultant ou une consultante, on peut être un formateur, une formatrice, et etc., etc. Mais en fait, le rôle, c'est d'accompagner, d'être cette personne externe à l'entreprise qui vient avec son regard justement extérieur pour comprendre les mécanismes d'une problématique qui peut exister ou aider à valoriser un potentiel qui est déjà là et qui demande qu'à grandir et grandir encore.
Question, comment vous évoluez dans un secteur comme l'immobilier que vous connaissez bien, parce que vous travaillez beaucoup dans l'immobilier, parce que forcément vous êtes issu du secteur également, avec les enjeux majeurs, comment vous les accompagnez très concrètement pour tous celles et ceux qui écoutent qui ont besoin peut-être d'être pris un peu en main, j'allais dire, c'est presque une thérapie dans une certaine mesure pour les accompagner, pour les rassurer. Quel est votre regard justement sur le contemporain, sur ce qui se passe dans le métier? Vous qui avez déjà 15 ans de recul dans l'événementiel, dans l'immobilier.
Justement, je me permets de vous corriger sur le mot thérapie, parce que justement, c'est pas de la thérapie.
Non, c'est pas de la thérapie.
C'est pour ça que je me permets.
C'est l'accompagnement.
Exactement, l'accompagnement. Je...
Non, mais parfois, vous faites un peu l'assistante sociale, non?
Ah, ça peut.
Est-ce qu'il y a des clients qui se confient?
Oui, beaucoup.
Bon.
Bah, parce qu'il paraît que j'ai ça comme soft skills.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de thérapie, quand même?
Vous mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, je ne suis pas thérapeute, je suis coach, d'accord. Consultante, formatrice. Et c'est important de faire le distinguo, parce que c'est un côté vraiment très professionnel. Si on arrive quand même à parler de la personnalité, et donc il y a quelque chose d'humain et qui dépasse un petit peu le secteur. Et vous parliez évidemment d'immobilier, mais j'interviens dans tout type de domaine. La restauration, l'hôtellerie, voilà, j'ai même travaillé pour la SNCF. Mais derrière ça, ce sont juste des hommes et des femmes avec des problématiques, avec des soft skills, avec des axes d'amélioration, avec des super potentiels. Et dans un contexte qui est au-delà du secteur de l'immobilier, compliqué aujourd'hui, politiquement parlant, économiquement parlant. Donc oui, le mot de confiance, il est aujourd'hui plus que ce socle, vous disiez, un côté un peu ringard. Tout à l'heure, j'ai noté ce mot, mais entre loyauté et transparence, mais c'est quelque chose qui est juste nécessaire. Et cette confiance, je crois que la confiance, elle est aussi de la confiance qu'on s'accorde à soi, à ses compétences, à sa propre valeur et à comment je peux mutualiser tout ça avec mes compétences professionnelles pour avoir un épanouissement.
C'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, d'assister à une espèce de triomphe du mensonge et de la versatilité avec les enjeux politiques. Comment on fait pour en savoir plus? Vous avez un site internet, comment on fait pour vous contacter?
Oui. Alors, tout aussi original, Céline Fernandez Conseil.
Voilà, Céline Fernandez Conseil,
voilà,
avec un Z à Fernandez.
Un Z à Fernandez et un voilà. S à Conseil, car j'en donne
conseil.
Beaucoup.
.com. Voilà, .com, tout simplement. Voilà. Très facile de vous trouver. De
voilà,
toute façon,
sur LinkedIn, sur Instagram.
Si vous avez besoin d'entrer en contact avec vous, Céline, bah, vous nous écrivez à la rédaction et puis on vous transmettra.
Avec plaisir.
On vous transmettra tous les contacts. Voilà, je vous propose un dernier petit jeu rapidement pour conclure notre émission, puisqu'il y a une tonalité philosophique. Je vais vous demander à chacun de choisir un adjectif, un mot, un seul, très spontanément, qui illustre les propos que nous venons d'échanger. On va commencer par vous, Olivier.
Transparence.
Ah, tu m'as piqué mon mot.
Ah non, moi,
transparence.
J'en parle depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est la comptabilité d'un côté.
Oui. Transparence.
C'est la relation.
Un seul mot. Voilà, un seul mot. Merci, Olivier. Xavier Bellevaux.
Performance.
Ah, performance. C'est marrant, ça m'étonne qu'à moitié. Alors, performance. Julien.
Valeur. Voilà.
Ah, Julien. Valeur.
Valeur.
C'est les Juliens.
Oui. Valeur. Céline.
J'aurais dit évolution.
Évolution.
Trouve-nous un mot bien dur.
Arnaud.
Bien dur? Non, engagement.
Arnaud. Ah, d'accord. Arnaud, c'est le mot engagement. Transparence, performance, valeur, évolution, engagement.
Et ton mot à toi, Sylvain?
Alors, moi, je fais la phrase. Si on veut aller vers plus de transparence, encore faut-il que nous mettions un socle commun de valeurs, adapter les performances aux évolutions et à l'engagement collectif. Ce sera
le mot de la fin.
La phrase
ce sera la phrase de la fin. Un immense merci à Arnaud via l'annexe AVX Consulting. On vous trouve aussi sur internet, Olivier.
Tout à fait.
Absolument, voilà.
AVX Consulting.
Absolument, ouais, AVX Consulting. Un immense merci à vous, Céline Fernandez, coach en entreprise. CélineFernandez.fr ou .com.
.com.
Voilà, .com qu'on trouve très facilement et qu'on prise sur LinkedIn. Hein, faut revenir, Céline, hein, plus souvent.
Ah bah avec plaisir. J'habite pas très loin.
Eh ben vous serez toujours la bienvenue. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Kazam qui est maintenant son ronde serviette gravée à son nom à la radio, Casampro, avec vous, Julien Bénard, merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci au président Olivier Sapard, Guilde de France et Grand Paris pour l'UNIS, ainsi que président de CALISR, on en parlera d'ailleurs. Vous avez une grosse actualité ces jours-ci, justement. Pourquoi ? Merci de venir régulièrement sur nos interpellations, puisque on vous sollicite beaucoup. Merci. Vous ne ménagez pas votre temps pour l'engagement auprès des professionnels. Merci Olivier Sapard. J'appelle que si vous voulez devenir adhérent à l'UNIS Île-de-France Grand Paris, hein, vous pouvez contacter aussi les services d'Olivier Sapard. Vous êtes dans le 17e arrondissement, c'est très facile. Et d'ailleurs, je crois que WeInvest est devenu aussi adhérent de l'UNIS. Un immense merci à vous, mon cher Xavier Bellevaux. Bon, intéressant comme débat, toujours.
Toujours.
Voilà. Ça vous a fait plaisir d'être avec nous ?
Mais toujours.
Voilà. On va embrasser toutes celles et ceux qui nous écoutent bien chaleureusement. On va leur demander de bien prendre soin d'elles. Mais on va faire une petite mention particulière pour Julien et Ethan. On les embrasse aussi bien fort et on pense bien à eux. On peut le dire, ça ?
Merci. Voilà. Oui, on coupera au montage.
On peut le dire. Mais on peut le dire aussi à toutes celles et ceux qui nous sont proches. On parlait de transparence, on parlait d'être comme nous sommes. Moi, je trouve que c'est intéressant de ne pas être le même dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, parce que je trouve que parfois, on y gagne humainement. C'était bien l'objet de notre débat. Merci à tous. Le podcast est à récupérer sur les plateformes d'écoute, comme d'habitude. Vous pouvez liker, commenter, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. À la prochaine fois, et d'ici là, eh bien, vous prenez soin de vous.
Débat IMO, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio IMO, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.